Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Première partie, livre deuxième. Collège de Dole, mathématiques et langues, traits de ma mémoire. 2. Vacances à Combourg, vie de château en province, mœurs féodales, habitants de Combourg. 3. Seconde vacances à Combourg, régiment de Conti, camp à Saint-Malo, une abbaye, théâtre, mariage de mes deux sœurs aînées, retour au collège, révolution commencée dans mes idées. 4. Aventure de la pie. 3e vacances à Combourg. Le charlatan. Rentrée au collège. 5. Invasion de la France. Jeu. L'abbé de Chateaubriand. 6. Première communion. Je quitte le collège de Dole. 7. Mission à Combourg. Collège de Rennes. Je retrouve Géril. Moreau, Limoëlan, mariage de ma troisième sœur. 8. Je suis envoyé à Brest pour subir l'examen de garde de marine. Le port de Brest. Je retrouve encore Géril. La Pérouse. Je reviens à Combourg. Chapitre 1. Dieppe, septembre 1812. Revue en juin 1846. Collège de Dole, mathématiques et langues, traits de ma mémoire. Je n'étais pas tout à fait étranger à Dole. Mon père en était chanoine comme descendant et représentant de la maison de Guillaume de Chateaubriand, sire de Beaufort, fondateur en 1529 d'une première stalle dans le cœur de la cathédrale. L'évêque de Dole était monsieur de Hercé, ami de ma famille, prélat d'une grande modération politique qui, à genoux, le crucifix à la main, fut fusillé avec son frère, l'abbé de Hercé, à Quiberon, dans le champ du martyr. En arrivant au collège, je fus confié aux soins particuliers de monsieur l'abbé le prince, qui professait la rhétorique et possédait à fond la géométrie. C'était un homme d'esprit, d'une belle figure, aimant les arts, peignant assez bien le portrait, il se chargea de m'apprendre mon besou. L'abbé Ego, régent de troisième, devint mon maître de latin. J'étudiai les mathématiques dans ma chambre, le latin dans la salle commune. Il fallut quelque temps à un hibou de mon espèce pour s'accoutumer à la cage d'un collège et régler sa volée au son d'une cloche. Je ne pouvais avoir ces prompts amis que donne la fortune, car il n'y avait rien à gagner avec un pauvre polisson qui n'avait pas même d'argent de semaine. Je ne m'enrôlais point non plus dans une clientèle, car je hais les protecteurs. Dans les jeux, je ne prétendais mener personne, mais je ne voulais pas être mené. Je n'étais bon ni pour tyran ni pour esclave, et tel je suis demeuré. Il arriva pourtant que je devins assez vite un centre de réunion. J'exerçais dans la suite, à mon régiment, la même puissance. Simple sous-lieutenant que j'étais, les vieux officiers passaient leurs soirées chez moi et préféraient mon appartement au café. Je ne sais d'où cela venait, n'était peut-être de ma facilité à entrer dans l'esprit et à prendre les mœurs des autres. J'aimais autant chasser et courir que lire et écrire. Il m'est encore indifférent de deviser des choses les plus communes ou de causer des sujets les plus relevés. Très peu sensible à l'esprit, il m'est presque antipathique, bien que je ne sois pas une bête. Aucun défaut ne me choque, excepté la moquerie et la suffisance, que j'ai grand-peine à ne pas morguer. Je trouve que les autres ont toujours sur moi une supériorité quelconque, et si je me sens par hasard un avantage, j'en suis tout embarrassé. Des qualités que ma première éducation avait laissé dormir s'éveillèrent au collège. Mon aptitude au travail était remarquable, ma mémoire extraordinaire. Je fis des progrès rapides en mathématiques où j'apportai une clarté de conception qui étonnait l'abbé le prince. Je montrais en même temps un goût décidé pour les langues. Le rudiment, supplice des écoliers, ne me coûta rien à apprendre. J'attendais l'heure des leçons de latin avec une sorte d'impatience, comme un délassement de mes chiffres et de mes figures de géométrie. En moins d'un an, je devins fort cinquième. Par une singularité, ma phrase latine se transformait si naturellement en pentamètre que l'abbé Ego m'appelait l'élégiaque, nom qui me pensa rester parmi mes camarades. Quant à ma mémoire, en voici deux traits. J'appris par cœur mes tables de logarithme, c'est-à-dire qu'un nombre étant donné dans la proportion géométrique, je trouvais de mémoire son exposant dans la proportion arithmétique et vice versa. Après la prière du soir, que l'on disait en commun à la chapelle du collège, le principal faisait une lecture. Un des enfants, pris au hasard, était obligé d'en rendre compte. Nous arrivions fatigués de jouer et mourant de sommeil à la prière. Nous nous jetions sur les bancs, tâchant de nous enfoncer dans un coin obscur pour n'être pas aperçus et conséquemment interrogés. Il y avait surtout un confessionnal que nous nous disputions comme une retraite assurée. Un soir, j'avais eu le bonheur de gagner ce port et je m'y croyais en sûreté contre le principal. Malheureusement, il signala ma manœuvre et résolut de faire un exemple. Il lut donc, lentement et longuement, le second point d'un sermon. Chacun s'endormit, je ne sais par quel hasard je restais éveillé dans mon confessionnal. Le principal, qui ne me voyait que le bout des pieds, crut que je dodinais comme les autres. Et tout à coup, m'apostrophant, il me demanda ce qu'il avait lu. Le second point du sermon contenait une énumération des diverses manières dont on peut offenser Dieu. Non seulement je dis le fond de la chose, mais je repris les divisions dans leur ordre et répétai presque mot à mot plusieurs pages d'une prose mystique inintelligible pour un enfant. Un murmure d'applaudissements s'éleva dans la chapelle. Le principal m'appela, me donna un petit coup sur la joue et me permit en récompense de ne me lever le lendemain qu'à l'heure du déjeuner. Je me dérobai modestement à l'admiration de mes camarades et je profitais bien de la grâce accordée. Cette mémoire des mots qui ne m'est pas entièrement restée a fait place chez moi à une autre sorte de mémoire, plus singulière, dont j'aurai peut-être occasion de parler. Une chose m'humilie, la mémoire est souvent la qualité de la sottise. Elle appartient généralement aux esprits lourds, qu'elle rend plus pesants par le bagage dont elle les surcharge. Et néanmoins, sans la mémoire, que serions-nous ? Nous oublierions nos amitiés, nos amours, nos plaisirs, nos affaires. Le génie ne pourrait rassembler ses idées. Le cœur le plus affectueux perdrait sa tendresse s'il ne s'en souvenait plus. Notre existence se réduirait aux moments successifs d'un présent qui s'écoule sans cesse. Il n'y aurait plus de passé. Oh, misère de nous ! Notre vie est si vaine qu'elle n'est qu'un reflet de notre mémoire. Chapitre 2. Dieppe, octobre 1812. Vacances à Combourg, vie de château en province, mœurs féodales, habitants de Combourg. J'allais passer le temps des vacances à Combourg. La vie de château aux environs de Paris ne peut donner une idée de la vie de château dans une province reculée. La terre de Combourg n'avait pour tout domaine que des landes, quelques moulins et les deux forêts, Bourgouette et Tanoherne, dans un pays où le bois est presque sans valeur. Mais Combourg était riche en droits féodaux. Ces droits étaient de diverses sortes. Les uns déterminaient certaines redevances pour certaines concessions ou fixaient des usages nés de l'ancien ordre politique. Les autres ne semblaient avoir été dans l'origine que des divertissements. Mon père avait fait revivre quelques-uns de ces derniers droits afin de prévenir la prescription. Lorsque toute la famille était réunie, nous prenions part à ces amusements gothiques. Les trois principaux étaient le sceau des poissonniers, la quintaine et une foire appelée l'angevine. Des paysans en sabots et en braies, hommes d'une France qui n'est plus, regardaient ces jeux d'une France qui n'était plus. Il y avait prix pour le vainqueur, amende pour le vaincu. La quintaine conservait la tradition des tournois. Elle avait sans doute quelque rapport avec l'ancien service militaire des fiefs. Elle est très bien décrite dans Ducange, Voque Quintana. On devait payer les amendes en ancienne monnaie de cuivre, jusqu'à la valeur de 2 moutons d'or à la couronne, de 25 sols parisis chacun. La foire appelée Langevine se tenait dans la prairie de l'étang, le 4 septembre de chaque année, le jour de ma naissance. Les vassaux étaient obligés de prendre les armes, ils venaient au château lever la bannière du seigneur. De là, ils se rendaient à la foire pour établir l'ordre et prêter force à la perception d'un péage dû au comte de Combourg par chaque tête de bétail, espèce de droit régalien. À cette époque, mon père tenait table ouverte. On balait pendant 3 jours, les maîtres dans la grande salle au raclement d'un violon, les vassaux dans la cour verte au nasillement d'une musette. On chantait, on poussait des huzas, on tirait des arquebusades. Ces bruits se mêlaient au mugissement des troupeaux de la foire. La foule vaguait dans les jardins et les bois, et du moins, une fois l'an, on voyait à Combourg quelque chose qui ressemblait à de la joie. Ainsi, j'ai été placé assez singulièrement dans la vie pour avoir assisté aux courses de la quintaine et à la proclamation des droits de l'homme, pour avoir vu la milice bourgeoise d'un village de Bretagne et la garde nationale de France, la bannière des seigneurs de Combourg et le drapeau de la Révolution. Je suis comme le dernier témoin des mœurs féodales. Les visiteurs que l'on recevait au château se composaient des habitants de la bourgade et de la noblesse de la banlieue. Ces honnêtes gens furent mes premiers amis. Notre vanité met trop d'importance au rôle que nous jouons dans le monde. Le bourgeois de Paris rit du bourgeois d'une petite ville. Le noble de cour se moque du noble de province. L'homme connu dédaigne l'homme ignoré, sans songer que le temps fait également justice de leurs prétentions et qu'ils sont tous également ridicules ou indifférents aux yeux des générations qui se succèdent. Le premier habitant du lieu était un monsieur Potelet, ancien capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes, qui redisait de grandes histoires de Pondichéry. Comme il les racontait, les coudes appuyés sur la table, mon père avait toujours envie de lui jeter son assiette au visage. Venait ensuite l'entreposeur des tabacs, M. Launay de la Billardière, père de famille qui comptait 12 enfants, comme Jacob, 9 filles et 3 garçons, dont le plus jeune, David, était mon camarade de jeu. Le bonhomme s'avisa de vouloir être noble en 1789. Il prenait bien son temps. Dans cette maison, il y avait force joie et beaucoup de dettes. Le sénéchal Gébert, le procureur fiscal Petit, le receveur Corvésier, le chapelain l'abbé Charmel formaient la société de Combourg. Je n'ai pas rencontré à Athènes des personnages plus célèbres. Messieurs du Petit Bois, de Château d'Assise, de Tinténiac, 1 ou 2 autres gentilshommes venaient le dimanche entendre la messe à la paroisse et dîner ensuite chez le châtelain. Nous étions plus particulièrement liés avec la famille Trémaudan, composée du mari, de la femme, extrêmement belle, d'une sœur naturelle et de plusieurs enfants. Cette famille habitait une métairie qui n'attestait sa noblesse que par un colombier. Les Trémaudan vivent encore. Plus sages et plus heureux que moi, ils n'ont point perdu de vue les tours du château que j'ai quitté depuis 30 ans. Ils font encore ce qu'ils faisaient lorsque j'allais manger le pain bis à leur table. Ils ne sont point sortis du port dans lequel je ne rentrerai plus. Peut-être parlent-ils de moi au moment même où j'écris cette page. Je me reproche de tirer leur nom de sa protectrice obscurité. Ils ont douté longtemps que l'homme dont ils entendaient parler fût le petit chevalier. Le recteur ou curé de Combourg, l'abbé Sévin, celui-là même dont j'écoutais le prône, a montré la même incrédulité. Il ne se pouvait persuader que le polisson, camarade des paysans, fût le défenseur de la religion. Il a fini par le croire, et il me cite dans ses sermons, après m'avoir tenu sur ses genoux. Ces dignes gens, qui ne mêlent à mon image aucune idée étrangère, qui me voient telle que j'étais dans mon enfance et dans ma jeunesse, me reconnaîtrait-il aujourd'hui sous les travestissements du temps? Je serais obligé de leur dire mon nom avant qu'ils me voulussent presser dans leurs bras. Je porte malheur à mes amis. un garde-chasse appelé Raux, qui s'était attaché à moi, fut tué par un braconnier. Ce meurtre me fit une impression extraordinaire. Quel étrange mystère dans le sacrifice humain! Pourquoi faut-il que le plus grand crime et la plus grande gloire soient de verser le sang de l'homme? Mon imagination me représentait Raux, tenant ses entrailles dans ses mains et se traînant à la chaumière, où il expira. Je conçus l'idée de la vengeance. Je m'aurais voulu battre contre l'assassin. Sous ce rapport, je suis singulièrement née. Dans le premier moment d'une offense, je la sens à peine. Mais elle se grave dans ma mémoire. Son souvenir, au lieu de décroître, s'augmente avec le temps. Il dort dans mon cœur des mois, des années entières, puis il se réveille, à la moindre circonstance, avec une force nouvelle. Et ma blessure devient plus vive que le premier jour. Mais si je ne pardonne point à mes ennemis, je ne leur fais aucun mal. Je suis rancunier et ne suis point vindicatif. Ai-je la puissance de me venger, j'en perds l'envie. Je ne serai dangereux que dans le malheur. Ceux qui m'ont cru faire céder en m'opprimant se sont trompés. L'adversité est pour moi ce qu'était la terre pour hanter. Je reprends des forces dans le sein de ma mère. Si jamais le bonheur m'avait enlevé dans ses bras, il m'eût étouffé. Chapitre 3. Dieppe, octobre 1812. Secondes vacances à Combourg. Régiment de Conti. Camp à Saint-Malo. Une abbaye. Théâtre. Mariage de mes deux sœurs aînées. Retour au collège. Révolution commencée dans mes idées. Je retournai à Dole, à mon grand regret. L'année suivante, il y eut un projet de descente à Jersey, et un camp s'établit auprès de Saint-Malo. Des troupes furent cantonnées à Combourg. M. de Chateaubriand donna, par courtoisie, successivement asile aux colonels des régiments de Touraine et de Conti. L'un était le duc de Saint-Simon, et l'autre le marquis de Causans. 20 officiers étaient tous les jours invités à la table de mon père. Les plaisanteries de ces étrangers me déplaisaient. Leur promenade troublait la paix de mes bois. C'est pour avoir vu le colonel en second du régiment de Conti, le marquis de Vignacourt, galoper sous des arbres, que des idées de voyage me passèrent pour la première fois par la tête. Quand j'entendais nos hôtes parler de Paris et de la cour, je devenais triste. Je cherchais à deviner ce que c'était que la société. Je découvrais quelque chose de confus et de lointain. Mais bientôt, je me troublais. Des tranquilles régions de l'innocence, en jetant les yeux sur le monde, j'avais des vertiges, comme lorsqu'on regarde la terre du haut de ses tours qui se perdent dans le ciel. Une chose me charmait pourtant, la parade. Tous les jours, la garde montante défilait, tambour et musique en tête, au pied du perron, dans la cour verte. Monsieur de Causans proposa de me montrer le camp de la côte. Mon père y consentit. Je fus conduit à Saint-Malo par M. de la Morandais, très bon gentilhomme, mais que la pauvreté avait réduit à être régisseur de la terre de Combourg. Il portait un habit de camelot gris, avec un petit galon d'argent au collet, une têtière ou morion de feutre gris à oreilles, à une seule corne en avant. Il me mit à califourchon derrière lui sur la croupe de sa jument Isabelle. Je me tenais au ceinturon de son couteau de chasse, attaché par-dessus son habit. J'étais enchanté. Lorsque Claude de Bullion et le père du président de Lamoignon, enfants, allaient en campagne, on les portait tous les deux sur un même âne, dans des paniers, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et l'on mettait un pain du côté de Lamoignon, parce qu'il était plus léger que son camarade, pour faire le contrepoids. Mémoire du président de Lamoignon. Monsieur de la Morandais prit des chemins de traverse. Moult volontiers, de grand manière, alloit en bois et en rivière, car nulle gens ne vont en bois, moult volontiers, comme François. Nous nous arrêtâmes pour dîner à une abbaye de bénédictins qui, faute d'un nombre suffisant de moines, venait d'être réunie à un chef-lieu de l'ordre. Nous n'y trouvâmes que le père procureur, chargé de la disposition des biens meubles et de l'exploitation des futaies. Il nous fit servir un excellent dîner maigre à l'ancienne bibliothèque du prieur. Nous mangeâmes quantité d'œufs frais avec des carpes et des brochets énormes. À travers l'arcade d'un cloître, je voyais de grands sycomores qui bordaient un étang. La cognée les frappait aux pieds, leurs cimes tremblaient dans l'air, et ils tombaient pour nous servir de spectacle. Des charpentiers, venus de Saint-Malo, sciaient à terre des branches vertes, comme on coupe une jeune chevelure, ou écarissaient des troncs abattus. Mon cœur saignait à la vue de ces forêts ébréchées et de ce monastère déshabité. Le sac général des maisons religieuses m'a rappelé depuis le dépouillement de l'abbaye, qui en fut pour moi le pronostic. Arrivé à Saint-Malo, j'y trouvai le marquis de Causans. Je parcourus sous sa garde les rues du camp. Les tentes, les faisceaux d'armes, les chevaux au piquet formaient une belle scène avec la mer, les vaisseaux, les murailles et les clochers lointains de la ville. Je vis passer, en habit de hussard, au grand galop sur un barbe, un de ces hommes en qui finissait un monde, le duc de Lauzun. Le prince de Carignan, venu au camp, épousa la fille de monsieur de Boisgarin, un peu boiteuse mais charmante. Cela fit grand bruit et donna matière à un procès que plaide encore aujourd'hui monsieur Lacretel l'aîné. Mais quel rapport ces choses ont-elles avec ma vie? À mesure que la mémoire de mes privés amis, dit Montaigne, leur fournit la chose entière, ils reculent si arrière leur narration que si le conte est bon, ils en étouffent la bonté. S'il ne l'est pas, vous êtes à maudire ou l'heure de leur mémoire ou le malheur de leur jugement. J'ai vu des récits bien plaisants devenir très ennuyeux en la bouche d'un seigneur. J'ai peur d'être ce seigneur. Mon frère était à Saint-Malo lorsque monsieur de la Morandais m'y déposa. Il me dit un soir, « Je te mène au spectacle. Prends ton chapeau. » Je perds la tête. Je descends droit à la cave pour chercher mon chapeau qui était au grenier. Une troupe de comédiens ambulants venait de débarquer. J'avais rencontré des marionnettes. Je supposais qu'on voyait au théâtre des polichinelles beaucoup plus beaux que ceux de la rue. J'arrive, le cœur palpitant, à une salle bâtie en bois, dans une rue déserte de la ville. J'entre par des corridors noirs, non sans un certain mouvement de frayeur. On ouvre une petite porte, et me voilà avec mon frère dans une loge à moitié pleine. Le rideau était levé, la pièce commençait. On jouait le père de famille. J'aperçois deux hommes qui se promenaient sur le théâtre en causant et que tout le monde regardait. Je les pris pour les directeurs des marionnettes qui devisaient devant la cahute de madame Gigogne en attendant l'arrivée du public. J'étais seulement étonné qu'ils parlassent si haut de leurs affaires et qu'on les écoutât en silence. Mon ébahissement redoubla lorsque d'autres personnages, arrivant sur la scène, se mirent à faire de grands bras, à larmoyer, et lorsque chacun se prit à pleurer par contagion. Le rideau tomba sans que j'eusse rien compris à tout cela. Mon frère descendit au foyer entre les deux pièces. Demeuré dans la loge au milieu des étrangers, dont ma timidité me faisait un supplice, j'aurais voulu être au fond de mon collège. Telle fut la première impression que je reçus de l'art de Sophocle et de Molière. La troisième année de mon séjour à Dole fut marquée par le mariage de mes deux sœurs aînées. Marianne épousa le comte de Marigny, et Bénigne, le comte de Québriac. Elles suivirent leur mari à Fougères, signal de la dispersion d'une famille dont les membres devaient bientôt se séparer. Mes sœurs reçurent la bénédiction nuptiale à Combourg le même jour, à la même heure, au même hôtel, dans la chapelle du château. Elles pleuraient, ma mère pleurait, je fus étonné de cette douleur. Je la comprends aujourd'hui. Je n'assiste pas à un baptême ou à un mariage sans sourire amèrement ou sans éprouver un serrement de cœur. Après le malheur de naître, je n'en connais pas de plus grand que celui de donner le jour à un homme. Cette même année commença une révolution dans ma personne comme dans ma famille. Le hasard fit tomber entre mes mains deux livres bien divers, un Horace, non châtié, et une histoire des confessions mal faites. Le bouleversement d'idées que ces deux livres me causèrent est incroyable. Un monde étrange s'éleva autour de moi. D'un côté, je soupçonnais des secrets incompréhensibles à mon âge, une existence différente de la mienne, des plaisirs au-delà de mes jeux, des charmes d'une nature ignorée dans un sexe où je n'avais vu qu'une mère et des sœurs. D'un autre côté, des spectres traînant des chaînes et vomissant des flammes m'annonçaient les supplices éternels pour un seul péché dissimulé. Je perdis le sommeil. La nuit, je croyais voir tour à tour des mains noires et des mains blanches passer à travers mes rideaux. Je vins à me figurer que ces dernières mains étaient maudites par la religion, et cette idée accrut mon épouvante des ombres infernales. je cherchais en vain dans le ciel et dans l'enfer l'explication d'un double mystère. Frappé à la fois au moral et au physique, je luttais encore avec mon innocence contre les orages d'une passion prématurée et les terreurs de la superstition. Dès lors, je sentis s'échapper quelques étincelles de ce feu qui est la transmission de la vie. J'expliquais le quatrième livre de l'Énéide et lisais le Télémaque. Tout à coup, je découvris dans Didon et dans Eucharis des beautés qui me ravirent. Je devins sensible à l'harmonie de ces vers admirables et de cette prose antique. Je traduisis un jour, à livre ouvert, l'Aeneadum genitrix hominum divumque voluptas de Lucrèce, avec tant de vivacité que M. Ego m'arracha le poème et me jeta dans les racines grecques. Je dérobai un tibule. Quand j'arrivai au quamivat imites ventos audire cubantem, ces sentiments de volupté et de mélancolie semblèrent me révéler ma propre nature. Les volumes de Massillon, qui contenaient les sermons de la pécheresse et de l'enfant prodigue, ne me quittaient plus. On me les laissait feuilleter, car on ne se doutait guère de ce que j'y trouvais. Je volais de petits bouts de cierge dans la chapelle pour lire la nuit ces descriptions séduisantes des désordres de l'âme. Je m'endormais en balbutiant des phrases incohérentes où je tâchais de mettre la douceur, le nombre et la grâce de l'écrivain qui a le mieux transporté dans la prose l'euphonie racinienne. Si j'ai, dans la suite, peint avec quelque vérité les entraînements du cœur mêlés au sein des raisons chrétiennes, je suis persuadée que j'ai dû ce succès au hasard qui me fit connaître au même moment deux empires ennemis. Les ravages que porta dans mon imagination un mauvais livre eurent leur correctif dans les frayeurs qu'un autre livre m'inspira, et celles-ci furent comme alanguies par les molles pensées que m'avaient laissées des tableaux sans voile. Chapitre 4. Dieppe, fin d'octobre 1812. Aventure de la pie. Troisième vacances à Combourg, le charlatan, rentrée au collège. Ce qu'on dit d'un malheur, qu'il n'arrive jamais seul, on le peut dire des passions. Elles viennent ensemble, comme les muses ou comme les furies. Avec le penchant qui commençait à me tourmenter, naquit en moi l'honneur, exaltation de l'âme qui maintient le cœur incorruptible au milieu de la corruption. Sorte de principe réparateur, placé auprès d'un principe dévorant, comme la source inépuisable des prodiges que l'amour demande à la jeunesse et des sacrifices qu'il impose. Lorsque le temps était beau, les pensionnaires du collège sortaient le jeudi et le dimanche. On nous menait souvent au Mont d'Ol, au sommet duquel se trouvaient quelques ruines gallo-romaines. Du haut de ce tertre isolé, l'œil plane sur la mer et sur des marais où voltigent pendant la nuit des feux follets, lumière des sorciers qui brûlent aujourd'hui dans nos lampes. Un autre but de nos promenades était les prés qui environnaient un séminaire d'Eudistes, d'Eudes, frères de l'historien Mézeray, fondateur de leur congrégation. Un jour du mois de mai, l'abbé Ego, préfet de semaine, nous avait conduits à ce séminaire. On nous laissait une grande liberté de jeu, mais il était expressément défendu de monter sur les arbres. Le régent, après nous avoir établis dans un chemin herbu, s'éloigna pour dire son bréviaire. Des ormes bordaient le chemin. Tout à la cime du plus grand brillait un nid de pie. Nous voilà en admiration, nous montrant mutuellement la mère assise sur ses œufs et pressée du plus vif désir de saisir cette superbe proie. Mais qui oserait tenter l'aventure? L'ordre était si sévère, le régent si près, l'arbre si haut. Toutes les espérances se tournent vers moi. Je grimpais comme un chat. J'hésite, puis la gloire l'emporte. Je me dépouille de mon habit, j'embrasse l'orme et je commence à monter. Le tronc était sans branches, excepté aux deux tiers de sa crue, où se formait une fourche dont une des pointes portait le nid. Mes camarades, assemblés sous l'arbre, applaudissent à mes efforts. Me regardant l'endroit d'où pouvait venir le préfet, trépignant de joie dans l'espoir des œufs, mourant de peur dans l'attente du châtiment. J'aborde au nid, la pie s'envole. Je ravis les œufs, je les mets dans ma chemise et redescends. Malheureusement, je me laisse glisser entre les tiges jumelles et j'y reste à califourchon. L'arbre étant élagué, je ne pouvais appuyer mes pieds ni à droite ni à gauche pour me soulever et reprendre le limbe extérieur. je demeure suspendu en l'air à 50 pieds. Tout à coup un cri « Voici le préfet !» et je me vois incontinent abandonné de mes amis, comme c'est l'usage. Un seul, appelé le Gobien, essaya de me porter secours et fut tôt obligé de renoncer à sa généreuse entreprise. Il n'y avait qu'un moyen de sortir de ma fâcheuse position, c'était de me suspendre en dehors par les mains à l'une des deux dents de la fourche et de tâcher de saisir avec mes pieds le tronc de l'arbre au-dessous de sa bifurcation. J'exécutai cette manœuvre au péril de ma vie. Au milieu de mes tribulations, je n'avais pas lâché mon trésor. J'aurais pourtant mieux fait de le jeter, comme depuis j'en ai jeté tant d'autres. En dévalant le tronc, je m'écorchai les mains. Je m'éraillais les jambes et la poitrine et j'écrasais les œufs. Ce fut ce qui me perdit. Le préfet ne m'avait point vu sur l'orme. Je lui cachai assez bien mon sang, mais il n'y eut pas moyen de lui dérober l'éclatante couleur d'or dont j'étais barbouillé. « Allons, me dit-il, monsieur, vous aurez le fouet. » Si cet homme m'eût annoncé qu'il commuait cette peine dans celle de mort, j'aurais éprouvé un mouvement de joie. L'idée de la honte n'avait point approché de mon éducation sauvage. À tous les âges de ma vie, il n'y a point de supplice que je n'eusse préféré à l'horreur d'avoir à rougir devant une créature vivante. L'indignation s'éleva dans mon cœur, je répondis à l'abbé Ego avec l'accent non d'un enfant mais d'un homme, que jamais ni lui ni personne ne lèverait la main sur moi. Cette réponse l'anima. Il m'appela rebelle et promit de faire un exemple. « Nous verrons, » répliquai-je, et je me mis à jouer à la balle avec un sang-froid qui le confondit. Nous retournâmes au collège, le régent me fit entrer chez lui et m'ordonna de me soumettre. Mes sentiments exaltés firent place à des torrents de larmes. Je représentai à l'abbé Ego qu'il m'avait appris le latin, que j'étais son écolier, son disciple, son enfant. Qu'il ne voudrait pas déshonorer son élève et me rendre la vue de mes compagnons insupportable, qu'il pouvait me mettre en prison, au pain et à l'eau, me priver de mes récréations, me charger de pensum, que je lui saurais gré de cette clémence et l'en aimerais davantage. Je tombai à ses genoux, je joignis les mains, je le suppliai par Jésus-Christ de m'épargner. Il demeura sourd à mes prières. Je me levai plein de rage et lui lançai dans les jambes un coup de pied si rude qu'il en poussa un cri. Il court en clochant à la porte de sa chambre, la ferme à double tour et revient sur moi. Je me retranche derrière son lit, il m'allonge à travers le lit des coups de férule. Je m'entortille dans la couverture et m'animant au combat, je m'écris « Macte animo generose puer ». Cette érudition de Grimaud fit rire malgré lui mon ennemi. Il parla d'armistice. Nous conclûmes un traité. Je convins de m'en rapporter à l'arbitrage du principal. Sans me donner gain de cause, le principal me voulut bien soustraire à la punition que j'avais repoussée. Quand l'excellent prêtre prononça mon acquittement, je baisai la manche de sa robe avec une telle effusion de cœur et de reconnaissance qu'il ne put s'empêcher de me donner sa bénédiction. Ainsi se termina le premier combat que me fit rendre cet honneur, devenu l'idole de ma vie, et auquel j'ai tant de fois sacrifié repos, plaisir et fortune. Les vacances, où j'entrais dans ma 12e année, furent tristes. L'abbé le prince m'accompagna à Combourg. Je ne sortais qu'avec mon précepteur, nous faisions au hasard de longues promenades, il se mourait de la poitrine. Il était mélancolique et silencieux, je n'étais guère plus gai. Nous marchions des heures entières, à la suite l'un de l'autre, sans prononcer une parole. Un jour, nous nous égarâmes dans les bois. Monsieur le prince se tourna vers moi et me dit « Quel chemin faut-il prendre ?» Je répondis, sans hésiter, « Le soleil se couche, il frappe à présent la fenêtre de la grosse tour. Marchons par là. » Monsieur le prince raconta le soir la chose à mon père. Le futur voyageur se montra dans ce jugement. « Maintes fois, en voyant le soleil se coucher dans les forêts de l'Amérique, je me suis rappelé les bois de Combourg. Mes souvenirs se font écho. L'abbé le prince désirait que l'on me donnât un cheval. Mais dans les idées de mon père, un officier de marine ne devait savoir manier que son vaisseau. J'étais réduit à monter à la dérobée deux grosses juments de carrosse ou un grand cheval pie. La pie n'était pas, comme celle de Turenne, un de ces destriers nommés par les Romains Desultorios et Quos, et façonnés à secourir leur maître. C'était un Pégase lunatique qui ferrait entre-temps et qui me mordait les jambes quand je le forçais à sauter des fossés. Je ne me suis jamais beaucoup soucié des chevaux, quoique j'aie mené la vie d'un tartare, et contre l'effet que ma première éducation aurait dû produire, je monte à cheval avec plus d'élégance que de solidité. La fièvre tierce dont j'avais apporté le germe des marais de Dole me débarrassa de Monsieur le Prince. Un marchand d'Orvietan passa dans le village. Mon père, qui ne croyait point aux médecins, croyait aux charlatans. Il envoya chercher l'empirique, qui déclara me guérir en 24 heures. Il revint le lendemain, habit vert galonné d'or, large tignasse poudrée, grande manchette de mousseline sale, faux brillant aux doigts, culotte de satin noir usée, bas de soie d'un blanc bleuâtre et souliers avec des boucles énormes. Il ouvre mes rideaux, me tâte le pouls, me fait tirer la langue, baragouine avec un accent italien quelques mots sur la nécessité de me purger et me donne à manger un petit morceau de caramel. Mon père approuvait l'affaire car il prétendait que toute maladie venait d'indigestion et que pour toute espèce de mot, il fallait purger son homme jusqu'au sang. Une demi-heure après avoir avalé le caramel, je fus pris de vomissements effroyables. On avertit Monsieur de Chateaubriand qui voulait faire sauter le pauvre diable par la fenêtre de la tour. Celui-ci, épouvanté, met habit bas, retrousse les manches de sa chemise en faisant les gestes les plus grotesques. À chaque mouvement, sa perruque tournait en tous sens. Il répétait mes cris et ajoutait après « Qu'est Mansou Lavandier ?» Ce monsieur Lavandier était le pharmacien du village qu'on avait appelé au secours. Je ne savais, au milieu de mes douleurs, si je mourais des drogues de cet homme ou des éclats de rire qu'il m'arrachait. On arrêta les effets de cette trop forte dose d'émétique et je fus remis sur pied. Toute notre vie se passe à errer autour de notre tombe. Nos diverses maladies sont des souffles qui nous approchent plus ou moins du port. Le premier mort que j'ai vu était un chanoine de Saint-Malo. Il gisait, expiré sur son lit, le visage distors par les dernières convulsions. La mort est belle, elle est notre amie, néanmoins nous ne la reconnaissons pas, parce qu'elle se présente à nous, masquée, et que son masque nous épouvante. On me renvoya au collège à la fin de l'automne. Chapitre 5. Vallée au Loup, décembre 1813. Invasion de la France. Jeu, l'abbé de Chateaubriand. De Dieppe, où l'injonction de la police m'avait obligé de me réfugier, on m'a permis de revenir à la vallée au Loup, où je continue ma narration. La terre tremble sous les pas du soldat étranger, qui dans ce moment même envahit ma patrie. J'écris comme les derniers Romains au bruit de l'invasion des barbares. Le jour, je trace des pages aussi agitées que les événements de ce jour. La nuit, tandis que le roulement du canon lointain expire dans mes bois, je retourne au silence des années qui dorment dans la tombe, à la paix de mes plus jeunes souvenirs. Que le passé d'un homme est étroit et court, à côté du vaste présent des peuples et de leur avenir immense. Les mathématiques, le grec et le latin occupèrent tout mon hiver au collège. Ce qui n'était pas consacré à l'étude était donné à ces jeux du commencement de la vie, pareils en tout lieu. Le petit anglais, le petit allemand, le petit italien, le petit espagnol, le petit iroquois, le petit bédouin, roule le cerceau et lance la balle. Frères d'une grande famille, les enfants ne perdent leurs traits de ressemblance qu'en perdant l'innocence, la même partout. Alors, les passions modifiées par les climats, les gouvernements et les mœurs font les nations diverses. Le genre humain cesse de s'entendre et de parler le même langage. C'est la société qui est la véritable tour de Babel. Un matin, j'étais très animée à une partie de bar dans la grande cour du collège. On me vint dire qu'on me demandait. Je suivis le domestique à la porte extérieure. Je trouve un gros homme, rouge de visage, les manières brusques et impatientes, le ton farouche, ayant un bâton à la main, portant une perruque noire mal frisée, une soutane déchirée retroussée dans ses poches, des souliers poudreux, des bas percés aux talons. « Petit polisson, me dit-il, n'êtes-vous pas le chevalier de Chateaubriand de Combourg ?»« Oui, monsieur, répondis-je, tout étourdi de l'apostrophe. « Et moi, reprit-il, presque écumant, Je suis le dernier aîné de votre famille. Je suis l'abbé de Chateaubriand de la Guérande. Regardez-moi bien. » Le fier abbé met la main dans le gousset d'une vieille culotte de panne, prend un écu de 6 francs moisi, enveloppé dans un papier crasseux, me le jette au nez et continue à pied son voyage en marmottant ses matines d'un air furibond. J'ai su depuis que le prince de Condé avait fait offrir à ce hobereau vicaire le préceptorat du duc de Bourbon. Le prêtre, outrecuidé, répondit que le prince, possesseur de la baronnie de Chateaubriand, devait savoir que les héritiers de cette baronnie pouvaient avoir des précepteurs, mais n'étaient les précepteurs de personne. Cette hauteur était le défaut de ma famille. Elle était odieuse dans mon père, mon frère la poussait jusqu'au ridicule, elle a un peu passé à son fils aîné. Je ne suis pas bien sûr, malgré mes inclinations républicaines, de m'en être complètement affranchi, bien que je l'ai soigneusement caché. Chapitre 6. Première communion. Je quitte le collège de Dole. L'époque de ma première communion approchait, moment où l'on décidait dans la famille de l'état futur de l'enfant. Cette cérémonie religieuse remplaçait parmi les jeunes chrétiens la prise de la robe virile chez les Romains. Madame de Chateaubriand était venue assister à la première communion d'un fils qui, après s'être uni à son Dieu, allait se séparer de sa mère. Ma piété paraissait sincère. J'édifiais tout le collège. Mes regards étaient ardents, mes abstinences répétées allaient jusqu'à donner de l'inquiétude à mes maîtres. On craignait l'excès de ma dévotion. Une religion éclairée cherchait à tempérer ma ferveur. J'avais pour confesseur le supérieur du séminaire des eudistes, homme de 50 ans, d'un aspect rigide. Toutes les fois que je me présentais au tribunal de la pénitence, il m'interrogeait avec anxiété. Surpris de la légèreté de mes fautes, il ne savait comment accorder mon trouble avec le peu d'importance des secrets que je déposais dans son sein. Plus le jour de Pâques s'avoisinait, plus les questions du religieux étaient pressantes. « Ne me cachez-vous rien ? » me disait-il. Je répondais « Non, mon père. » « N'avez-vous pas fait telle faute ? » « Non, mon père. » Et toujours « Non, mon père. » Il me renvoyait en doutant, en soupirant, en me regardant jusqu'au fond de l'âme, et moi je sortais de sa présence, pâle et défiguré comme un criminel. Je devais recevoir l'absolution le mercredi saint. Je passais la nuit du mardi au mercredi en prière et à lire avec terreur le livre des confessions mal faites. Le mercredi, à 3 heures de l'après-midi, nous partîmes pour le séminaire. Nos parents nous accompagnaient. Tout le vain bruit qui s'est depuis attaché à mon nom n'aurait pas donné à Madame de Chateaubriand un seul instant de l'orgueil qu'elle éprouvait comme chrétienne et comme mère en voyant son fils prêt à participer au grand mystère de la religion. En arrivant à l'église, je me prosternais devant le sanctuaire et j'y restais comme anéanti. Lorsque je me levais pour me rendre à la sacristie où m'attendait le supérieur, mes genoux tremblaient sous moi. Je me jetais aux pieds du prêtre. Ce ne fut que de la voix la plus altérée que je parvins à prononcer mon confiteor. « Eh bien, n'avez-vous rien oublié ? » me dit l'homme de Jésus-Christ. Je demeurai muet. Ces questions recommencèrent, et le fatal « Non, mon père » sortit de ma bouche. Il se recueillit, il demanda des conseils à celui qui conféra aux apôtres le pouvoir de lier et de délier les âmes. Alors, faisant un effort, il se prépare à me donner l'absolution. La foudre que le ciel eût lancée sur moi m'aurait causé moins d'épouvante, je m'écriai « Je n'ai pas tout dit !» Ce redoutable juge, ce délégué du souverain arbitre, dont le visage m'inspirait tant de crainte, devint le pasteur le plus tendre. Il m'embrasse et fond en larmes. « Allons, me dit-il, mon cher fils, du courage !» Je n'aurais jamais un tel moment dans ma vie. Si l'on m'avait débarrassé du poids d'une montagne, on ne m'eût pas plus soulagé. Je sanglotais de bonheur. J'ose dire que c'est de ce jour que j'ai été créé honnête homme. Je sentis que je ne survivrais jamais à un remords. Quel doit donc être celui du crime, si j'ai pu tant souffrir pour avoir tué les faiblesses d'un enfant ? Mais combien elle est divine, cette religion, qui se peut emparer ainsi de nos bonnes facultés ? Quels préceptes de morale suppléeront jamais à ces institutions chrétiennes ? Le premier aveu fait, rien ne me coûta plus. Mes puérilités cachées, et qui auraient fait rire le monde, furent pesées au poids de la religion. Le supérieur se trouva fort embarrassé. Il aurait voulu retarder ma communion, mais j'allais quitter le collège de Dole et bientôt entrer au service dans la marine. Il découvrit, avec une grande sagacité, dans le caractère même de mes juvéniles, tout insignifiantes qu'elles étaient, la nature de mes penchants. C'est le premier homme qui ait pénétré le secret de ce que je pouvais être. Il devina mes futures passions. Il ne me cacha pas ce qu'il croyait voir de bon en moi, mais il me prédit aussi mes maux à venir. Enfin, ajouta-t-il, le temps manque à votre pénitence, mais vous êtes lavé de vos péchés par un aveu courageux, quoique tardif. Il prononça, en levant la main, la formule de l'absolution. Cette seconde fois, ce bras foudroyant ne fit descendre sur ma tête que la rosée céleste. J'inclinai mon front pour la recevoir, ce que je sentais participait de la félicité des anges. Je m'allais précipiter dans le sein de ma mère qui m'attendait au pied de l'autel. Je ne parus plus le même à mes maîtres et à mes camarades. Je marchais d'un pas léger, la tête haute, l'air radieux, dans tout le triomphe du repentir. Le lendemain, jeudi saint, je fus admis à cette cérémonie touchante et sublime dont j'ai vainement essayé de tracer le tableau dans le génie du christianisme. J'y aurais pu trouver mes petites humiliations accoutumées. Mon bouquet et mes habits étaient moins beaux que ceux de mes compagnons. Mais ce jour-là, tout fut à Dieu et pour Dieu. Je sais parfaitement ce que c'est que la foi. La présence réelle de la victime dans le Saint-Sacrement de l'autel m'était aussi sensible que la présence de ma mère à mes côtés. Quand l'hostie fut déposée sur mes lèvres, je me sentis comme tout éclairé en dedans. Je tremblais de respect, et la seule chose matérielle qui m'occupa était la crainte de profaner le pain sacré. Le pain que je vous propose sert aux anges d'aliment. Dieu lui-même le compose, de la fleur de son froment. Racine. Je conçus encore le courage des martyrs. J'aurais pu, dans ce moment, confesser le Christ sur le chevalet ou au milieu des lions. J'aime à rappeler ces félicités qui précédèrent de peu d'instants dans mon âme les tribulations du monde, en comparant ces ardeurs aux transports que je vais peindre, en voyant le même cœur éprouver dans l'intervalle de 3 ou 4 années tout ce que l'innocence et la religion ont de plus doux et de plus salutaire, et tout ce que les passions ont de plus séduisant et de plus funeste. On choisira des deux joies, on verra de quel côté il faut chercher le bonheur et surtout le repos. 3 semaines après ma première communion, je quittai le collège de Dole. Il me reste de cette maison un agréable souvenir. Notre enfance laisse quelque chose d'elle-même aux lieux embellis par elle. Comme une fleur communique son parfum aux objets qu'elle a touchés. Je m'attendris encore aujourd'hui en songeant à la dispersion de mes premiers camarades et de mes premiers maîtres. L'abbé Le Prince, nommé à un bénéfice auprès de Rouen, vécut peu. L'abbé Ego obtint une cure dans le diocèse de Rennes, et j'ai vu mourir le bon principal, l'abbé Porcher, au commencement de la Révolution. Il était instruit, doux et simple de cœur. La mémoire de cet obscur Rollin me sera toujours chère et vénérable. Chapitre 7. Vallée au Loup, fin de décembre 1813. Mission à Combourg, collège de Rennes. Je retrouve Géril, Moreau, Limoëlan, mariage de ma 3e sœur. Je trouvai à Combourg de quoi nourrir ma piété, une mission. J'en suivis les exercices. Je reçus la confirmation sur le perron du manoir avec les paysans et les paysannes de la main de l'évêque de Saint-Malo. Après cela, on érigea une croix. J'aidai à la soutenir, tandis qu'on la fixait sur sa base. Elle existe encore. Elle s'élève devant la tour où est mort mon père. Depuis 30 années, elle n'a vu paraître personne aux fenêtres de cette tour. Elle n'est plus saluée des enfants du château. Chaque printemps, elle les attend, en vain. Elle ne voit revenir que les hirondelles. Compagne de mon enfance, plus fidèle à leur nid que l'homme à sa maison. Heureux si ma vie s'était écoulée au pied de la croix de la mission, si mes cheveux n'eussent été blanchis que par le temps qui a couvert de mousse les branches de cette croix. Je ne tardai pas à partir pour Rennes. j'y devais continuer mes études et clore mon cours de mathématiques afin de subir ensuite à Brest l'examen de garde-marine. Monsieur de Fayolle était principal du collège de Rennes. On comptait dans ce Juilly de la Bretagne trois professeurs distingués, l'abbé de Châteaugiron pour la seconde, l'abbé Germay pour la rhétorique, l'abbé Marchand pour la physique. Le pensionnat et les externes étaient nombreux, les classes fortes. Dans les derniers temps, Geoffroy et Jean Guéné, sortis de ce collège, auraient fait honneur à Sainte-Barbe et au Plessis. Le chevalier de Pargny avait aussi étudié à Rennes. J'héritais de son lit dans la chambre qui me fut assignée. Rennes me semblait une Babylone, le collège un monde. La multitude des maîtres et des écoliers, la grandeur des bâtiments, du jardin et des cours, me paraissait démesurée. Je m'y habituais cependant. À la fête du principal, nous avions des jours de congé. Nous chantions à tue-tête à sa louange de superbes couplets de notre façon, où nous disions « Ô Terpsichore, ô Polymnie, venez, venez remplir nos vœux, la raison même vous convie. » Je pris sur mes nouveaux camarades l'ascendant que j'avais eu à Dole sur mes anciens compagnons. Il m'en coûta quelques horions. Les babouins bretons sont d'une humeur hargneuse. On s'envoyait des cartels pour les jours de promenade dans les bosquets du jardin des bénédictins, appelés le Tabor. Nous nous servions de compas de mathématiques attachés au bout d'une canne, où nous en venions à une lutte corps à corps, plus ou moins félonne ou courtoise, selon la gravité du défi. Il y avait des juges du camp qui décidaient s'ils échéaient gage, et de quelle manière les champions mèneraient des mains. Le combat ne cessait que quand une des deux parties s'avouait vaincue. Je retrouvai au collège mon ami Géril, qui présidait comme à Saint-Malo à ses engagements. Il voulait être mon second dans une affaire que j'eus avec Saint-Riveul, jeune gentilhomme qui devint la première victime de la Révolution. Je tombais sous mon adversaire, refusais de me rendre et payais cher ma superbe. Je disais, comme j'en démarrais allant à l'échafaud, « Je ne crie merci qu'à Dieu !» Je rencontrai à ce collège deux hommes devenus depuis différemment célèbres, Moreau, le général, et Limoëlan, auteur de la Machine infernale, aujourd'hui prêtre en Amérique. Il n'existe qu'un portrait de Lucile, et cette méchante miniature a été faite par Limoëlan, devenu peintre pendant les détresses révolutionnaires. Moreau était externe, Limoëlan pensionnaire. On a rarement trouvé à la même époque, dans une même province, dans une même petite ville, dans une même maison d'éducation, des destinées aussi singulières. Je ne puis m'empêcher de raconter un tour d'écolier que joua au préfet de semaine mon camarade Limoëlan. Le préfet avait coutume de faire sa ronde dans les corridors après la retraite pour voir si tout était bien. Il regardait à cet effet par un trou pratiqué dans chaque porte. Limoëlan, Géril, Saint-Riveul et moi nous couchions dans la même chambre. D'animaux malfaisants, c'était un fort bon plat. Vainement avions-nous plusieurs fois bouché le trou avec du papier. Le préfet poussait le papier et nous surprenait, sautant sur nos lits et cassant nos chaises. Un soir, Limoëlan, sans nous communiquer son projet, nous engage à nous coucher et à éteindre la lumière. Bientôt, nous l'entendons se lever, aller à la porte et puis se remettre au lit. Un quart d'heure après, voici venir le préfet sur la pointe du pied. Comme avec raison nous lui étions suspects, il s'arrête à notre porte, écoute, regarde, n'aperçoit point de lumière. « Qui est-ce qui a fait cela ? » s'écrie-t-il en se précipitant dans la chambre. Limoëlan d'étouffer de rire et Géril de dire en nasillant avec son air moitié niais, moitié goguenard, « Qu'est-ce donc, monsieur le préfet ?» Voilà Saint-Riveul et moi à rire comme Limoëlan et à nous cacher sous nos couvertures. On ne put rien tirer de nous. Nous fûmes héroïques. Nous fûmes mis tous quatre en prison au caveau. Saint-Riveul fouilla la terre sous une porte qui communiquait à la basse-cour. Il engagea sa tête dans cette topinière, un porc accouru et lui pensa manger la cervelle. Géril se glissa dans les caves du collège et mit couler un tonneau de vin. Limoëlan démolit un mur et moi, nouveau perrin d'Andin, grimpant dans un soupirail, j'ametais la canaille de la rue par mes harangues. Le terrible auteur de la Machine infernale, jouant cette niche de polisson à un préfet de collège, rappelle en petit cromwell barbouillant d'encre la figure d'un autre régicide qui signait après lui l'arrêt de mort de Charles Ier. Quoique l'éducation fût très religieuse au collège de Rennes, ma ferveur se ralentit. Le grand nombre de mes maîtres et de mes camarades multipliait les occasions de distraction. J'avançai dans l'étude des langues, je devins fort en mathématiques, pour lesquelles j'ai toujours eu un penchant décidé. J'aurais fait un bon officier de marine ou de génie. En tout, j'étais né avec des dispositions faciles. Sensible aux choses sérieuses comme aux choses agréables, j'ai commencé par la poésie. Avant d'en venir à la prose, les arts me transportaient, j'ai passionnément aimé la musique et l'architecture. Quoique prompt à m'ennuyer de tout, j'étais capable des plus petits détails. Étant doué d'une patience à toute épreuve, quoique fatigué de l'objet qui m'occupait, mon obstination était plus forte que mon dégoût. Je n'ai jamais abandonné une affaire quand elle a valu la peine d'être achevée. Il y a telle chose que j'ai poursuivi 15 et 20 ans de ma vie, aussi plein d'ardeur le dernier jour que le premier. Cette souplesse de mon intelligence se retrouvait dans les choses secondaires. J'étais habile aux échecs, adroit au billard, à la chasse, au maniement des armes. Je dessinais passablement, j'aurais bien chanté si l'on eût pris soin de ma voix. Tout cela, joint au genre de mon éducation, à une vie de soldat et de voyageur, fait que je n'ai point senti mon pédant, que je n'ai jamais eu l'air hébété ou suffisant, la gaucherie, les habitudes crasseuses des hommes de lettres d'autrefois, encore moins la morgue et l'assurance, l'envie et la vanité fanfaronne des nouveaux auteurs. Je passai 2 ans au collège de Rennes. Géril le quitta 18 mois avant moi. Il entra dans la marine. Julie, ma 3e sœur, se maria au cours de ces 2 années. Elle épousa le comte de Farcy, capitaine au régiment de Condé, et s'établit avec son mari à Fougères, où déjà habitaient mes 2 sœurs aînées, mesdames de Marigny et de Québriac. Le mariage de Julie eut lieu à Combourg, et j'assistai à la noce. J'y rencontrai cette comtesse de Tronjoly, qui se fit remarquer par son intrépidité à l'échafaud. Cousine et intime amie du marquis de la Rouërie, elle fut mêlée à sa conspiration. Je n'avais encore vu la beauté qu'au milieu de ma famille. Je restais confondu en l'apercevant sur le visage d'une femme étrangère. Chaque pas dans la vie m'ouvrait une nouvelle perspective. J'entendais la voix lointaine et séduisante des passions qui venaient à moi. Je me précipitais au-devant de ces sirènes, attiré par une harmonie inconnue. Il se trouva que, comme le grand prêtre d'Éleusis, j'avais des encens divers pour chaque divinité. Mais les hymnes que je chantais en brûlant ces encens pouvaient-ils s'appeler baumes, ainsi que les poésies de l'Hériophante? Chapitre 8. La vallée aux loups, janvier 1814. Je suis envoyé à Brest pour subir l'examen de garde de marine. Le port de Brest, je retrouve encore Géril, la Pérouse, je reviens à Combourg. Après le mariage de Julie, je partis pour Brest. En quittant le grand collège de Rennes, je ne sentis point le regret que j'éprouvais en sortant du petit collège de Dole. Peut-être n'avais-je plus cette innocence qui nous fait un charme de tout. Ma jeunesse n'était plus enveloppée dans sa fleur, le temps commençait à la déclore. J'eus pour mentor, dans ma nouvelle position, un de mes oncles maternels, le comte Ravenel de Boisteilleul, chef d'escadre, dont un des fils, officier très distingué d'artillerie dans les armées de Bonaparte, a épousé la fille unique de ma sœur, la comtesse de Farcy. Arrivé à Brest, je ne trouvai point mon brevet d'aspirant. Je ne sais quel accident l'avait retardé. Je restais ce qu'on appelait soupirant et, comme tel, exempt d'études régulières. Mon oncle me mit en pension dans la rue de Siam à une table d'hôte d'aspirant et me présenta au commandant de la marine, le comte Hector. Abandonné à moi-même pour la première fois, au lieu de me lier avec mes futurs camarades, je me renfermais dans mon instinct solitaire. Ma société habituelle se réduisit à mes maîtres d'escrime, de dessin et de mathématiques. Cette mer, que je devais rencontrer sur tant de rivages, baignait à Brest l'extrémité de la péninsule armoricaine. Après ce cap avancé, il n'y avait plus rien qu'un océan sans bornes et des mondes inconnus. Mon imagination se jouait dans ces espaces. Souvent assis sur quelques mâts qui gisaient le long du quai de recouvrance, je regardais les mouvements de la foule. Constructeurs, matelots, militaires, douaniers, forçats, passaient et repassaient devant moi. Des voyageurs débarquaient et s'embarquaient. Des pilotes commandaient la manœuvre. Des charpentiers écarissaient des pièces de bois. Des cordiers filaient des câbles. Des mousses allumaient des feux sous des chaudières, d'où sortait une épaisse fumée et la saine odeur du goudron. On portait, on reportait, on roulait de la marine au magasin et des magasins à la marine, des ballots de marchandises, des sacs de vivres, des trains d'artillerie. Ici, des charrettes s'avançaient dans l'eau à reculons pour recevoir des chargements. Là, des palans enlevaient des fardeaux, tandis que des grues descendaient des pierres et que des cures molles creusaient des atterrissements. Des forts répétaient des signaux, des chaloupes allaient et venaient. Des vaisseaux appareillaient ou rentraient dans les bassins. Mon esprit se remplissait d'idées vagues sur la société, sur ses biens et ses maux. Je ne sais quelle tristesse me gagnait. Je quittais le mât sur lequel j'étais assis, je remontais le Penfeld qui se jette dans le port, j'arrivais à un coude où ce port disparaissait. Là, ne voyant plus rien qu'une vallée tourbeuse, mais entendant encore le murmure confus de la mer et la voix des hommes, je me couchais au bord de la petite rivière. Tantôt, regardant couler l'eau, tantôt suivant des yeux le vol de la corneille marine, jouissant du silence autour de moi ou prêtant l'oreille au coup de marteau du calfat, je tombais dans la plus profonde rêverie. Au milieu de cette rêverie, si le vent m'apportait le son du canon d'un vaisseau qui mettait à la voile, je tressaillais et des larmes mouillaient mes yeux. Un jour, j'avais dirigé ma promenade vers l'extrémité extérieure du port, du côté de la mer. Il faisait chaud, je m'étendis sur la grève et m'endormis. Tout à coup, je suis réveillée par un bruit magnifique. J'ouvre les yeux comme Auguste pour voir les trirèmes dans les mouillages de la Sicile après la victoire sur Sextus Pompée. Les détonations de l'artillerie se succédaient. La rade était semée de navires. La grande escadre française rentrait après la signature de la paix. Les vaisseaux manœuvraient sous voile, se couvraient de feu, arboraient des pavillons, présentaient la poupe, la proue, le flanc, s'arrêtaient en jetant l'ancre au milieu de leur course ou continuaient à voltiger sur les flots. Rien ne m'a jamais donné une plus haute idée de l'esprit humain. L'homme semblait emprunter dans ce moment quelque chose de celui qui a dit à la mer « Tu n'iras pas plus loin ». Non procedes amplius. Tout Brest a couru. Des chaloupes se détachent de la flotte et abordent au môle. Les officiers, dont elles étaient remplies, le visage brûlé par le soleil, avaient cet air étranger qu'on apporte d'un autre hémisphère. Et je ne sais quoi de gai, de fier, de hardi, comme des hommes qui venaient de rétablir l'honneur du pavillon national. Ce corps de la marine, si méritant, si illustre, ses compagnons des Suffrennes, des Lamotte Piquet, des Couedic, des Destins, échappés aux coups de l'ennemi, devaient tomber sous ceux des Français. Je regardais défiler la valeureuse troupe lorsqu'un des officiers se détache de ses camarades et me saute au cou. C'était Géril. Il me parut grandi, mais faible et languissant d'un coup d'épée qu'il avait reçu dans la poitrine. Il quitta Brest le soir même pour se rendre dans sa famille. Je ne l'ai vu qu'une fois depuis. Peu de temps avant sa mort héroïque. Je dirai plus tard en quelle occasion. L'apparition et le départ subit de Géril me firent prendre une résolution qui a changé le cours de ma vie. Il était écrit que ce jeune homme aurait un empire absolu sur ma destinée. On voit comment mon caractère se formait. Quel tour prenaient mes idées, quelles furent les premières atteintes de mon génie, car j'en puis parler comme d'un mâle, quel qu'était ce génie, rare ou vulgaire, méritant ou ne méritant pas le nom que je lui donne, faute d'un autre mot pour mieux m'exprimer. Plus semblable au reste des hommes, j'eusse été plus heureux. Celui qui, sans m'ôter l'esprit, fut parvenu à tuer ce qu'on appelle mon talent, m'aurait traité en ami. Lorsque le comte de Boisteilleul me conduisait chez M. Hector, j'entendais les jeunes et les vieux marins raconter leur campagne et causer des pays qu'ils avaient parcourus. L'un arrivait de l'Inde, l'autre de l'Amérique. Celui-là devait appareiller pour faire le tour du monde. Celui-ci allait rejoindre la station de la Méditerranée, visiter les côtes de la Grèce. Mon oncle me montra la Pérouse dans la foule, nouveau Cook, dont la mort est le secret des tempêtes. J'écoutais tout, je regardais tout, sans dire une parole. Mais la nuit suivante, plus de sommeil. je la passais à livrer en imagination des combats ou à découvrir des terres inconnues. Quoi qu'il en soit, en voyant Géril retourner chez ses parents, je pensais que rien ne m'empêchait d'aller rejoindre les miens. J'aurais beaucoup aimé le service de la marine si mon esprit d'indépendance ne m'eût éloigné de tous les genres de service. J'ai en moi une impossibilité d'obéir. Les voyages me tentaient, mais je sentais que je ne les aimerais que seul, en suivant ma volonté. Enfin, donnant la première preuve de mon inconstance, sans en avertir mon oncle Ravenel, sans écrire à mes parents, sans en demander permission à personne, sans attendre mon brevet d'aspirant, je partis un matin pour Combourg, où je tombai comme des nues. Je m'étonne encore aujourd'hui qu'avec la frayeur que m'inspirait mon père, j'eusse osé prendre une pareille résolution. Et ce qu'il y a d'aussi étonnant, c'est la manière dont je fus reçu. Je devais m'attendre au transport de la plus vive colère. Je fus accueilli doucement. Mon père se contenta de secouer la tête comme pour dire « Voilà une belle équipée ». Ma mère m'embrassa de tout son cœur en grognant et ma Lucille avec un ravissement de joie.
Thank you.